France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Dans le deuxième des 5 entretiens d'Avoinu qu'il accordait à Toufik Hakem en 2004, Youssef Chahine racontait ses années d'apprentissage de la mise en scène en Californie. C'était les souvenirs de ces années-là, de ses 20 ans dans les USA de l'après-guerre, dont était nourri le film qu'il terminait alors, Alexandrie New York, qui, en chantant et en dansant sa jeunesse et ses amours, interrogeait les ambivalences de sa relation avec l'Amérique. Dans ce deuxième volet d'Avoinu, Chahine parlait aussi de son retour en Égypte après ses deux années américaines, de ses débuts très précoces de réalisateur et des acteurs qu'il révéla au début de sa carrière, le couple mythique du cinéma égyptien dont sa caméra allait faire des stars, Faten Hamama et Michel Chaloub, qui deviendra célèbre sous le nom d'Omar Sharif. New York, Le Caire, deuxième partie de l'Avoinu de Youssef Chahine, diffusée la première fois le 20 juillet 2004, sur France Culture.
Youssef Chahine, deuxième partie d'Avoinu. Cette fois-ci, ça va s'appeler New York, Le Caire. Ah, et vous avez repris la cigarette. Donc, hier, on a parlé un peu d'Alexandrie, de votre adolescence, de votre jeunesse. Et puis, là, on va parler du jour où vous débarquez aux États-Unis. Donc, pour votre formation, ça tombe très bien parce que c'est le thème de votre dernier film, Alexandrie, New York.
Oui, c'était la première fois que je réellement... contacter des Américains, ça ne m'a pas du tout gêné, je n'avais pas trouvé ça étrange, parce que chez nous, on parlait tout. Et le cinéma parlait américain. Alors, j'ai pas eu de problème dans ça. Et la seule chose que je me rappelle du voyage de
New York,
oui, 4 jours et 3 nuits, c'est quand on est arrivé à Pasadena. Déjà, je m'en courbattais, et puis je me rappelle un noir qui servait dans le train, il prenait des billets, je ne sais pas quoi, et qui ouvre la porte d'une façon assez brusque, hein, et il apparaît et il dit « Rise and shine, we're at Pasadena », avec un accent tellement nègre et tellement merveilleux. Que ça a été une énorme joie de l'entendre dire. Et puis j'étais à l'école, c'était toujours avec une très grande normalité. Tu vas le voir dans le film Alexandrie, New York, une énorme normalité. Je reparlais, il me parlait. Moi, je reparlais comme si je parlais à n'importe qui à Alexandrie. Et je n'avais aucun complexe.
Sauf qu'une fois que vous découvrez Hollywood, une fois que vous découvrez l'industrie du cinéma américain, il y a bien sûr, vous découvrez un peu la face cachée du rêve américain. Et malgré tout ça, c'est-à-dire malgré toutes les mésaventures que vous allez avoir, malgré le côté réel de la chose, parce que ça va être dur de vivre là-bas, vous conservez quand même un grand amour pour cette période, pour ce pays et surtout pour cette école.
Ah oui, parce que j'ai eu des professeurs extraordinaires, réellement extraordinaires, excessivement talentueux en tant que professeur, et éculotés. Il y avait un professeur qui est entré un jour, on était une classe de 30, il a dit, écoutez, moi je sais que vous voulez tous pour être découverts par Hollywood, parce que Pasadena, c'est très près, c'est un bon lieu de Hollywood. Et vous êtes tous ici pour être découverts et pas du tout pour apprendre. Allez vous faire foutre, alors moi je vais travailler que ceux que je sens qui ont envie d'apprendre. Elle a choisi 6, elle a renvoyé tout le reste. Il. Dans le film, c'est elle. Il a renvoyé tout le monde. Il s'appelait Richard O'Connell. Il était irlandais, un peu dingue de bord. Mais quel professeur extraordinaire. Extraordinaire, ça veut dire que c'était la technique réelle.
Mais quand vous arrivez dans cette école, vous voulez devenir quoi ? Comédien, metteur en scène ?
Comédien.
Comédien d'abord.
Et puis vraiment, j'ai vu que le curriculum était très faible. Les comédiens, ça faisait de la parlotte, un tout petit peu comme les critiques français. Tu sais, ça parle, et puis finalement, tu ne sais pas s'ils ont aimé un film ou n'ont pas aimé un film. Ça devient philosophique, ça devient merdique, ça devient rien du tout, je ne comprends pas. Alors, j'ai découvert que deux, trois fois, j'ai été dans les cours de comédien, et j'ai découvert que c'était de la connerie. Vraiment, parce que je parlais d'un comédien. Il y avait, je crois, Stanislavski, avait des théories que je n'aimais pas du tout parce que moi j'avais la mienne. Alors je dis, moi je n'aime pas Stanislavski, je veux la méthode de Chaïn. Je dis, Stanislavski, comment? C'est le plus grand, c'est celui qui a créé le théâtre russe, je n'en savais rien du théâtre russe, hein, ou même de la méthode. Et moi, je trouvais que la méthode était un peu conne, sur les bords. Je n'aimais pas du tout. J'allais déjà avec une théorie. Ou alors, moi, je dis, toi, tu joues de l'intérieur. Et ne me dis pas que tu regardes dans un miroir et pour voir ce que tu réagis. Alors, quand tu commences à jouer, tu joues le type qui se regarde dans un miroir pour être certain que... Je trouvais que cette ellipse était totalement tordue, je ne comprenais pas. Je dis, si tu veux bien jouer, tu dois réellement penser et que ta pensée déclenche en toi. Exactement, c'est-à-dire, jusqu'à maintenant, moi je dis à mes acteurs, pense juste, tu joues juste, c'est tout. Et ne commence pas à faire des bêtises en te regardant dans le miroir, parce que ça n'a rien à foutre le miroir avec... vraiment sentir un rôle.
Youssef Chahine à Hollywood. Bah alors dites-moi, Youssef Chahine, quand vous arrivez très jeune, là-bas, aux États-Unis, pour apprendre le cinéma, vous devez être le seul Égyptien, le seul Arabe, le seul qui vient d'un pays aussi lointain. Comment vous voyez ?
Étant un petit malin d'Arabe, je me dis, si je suis metteur en scène, je pourrais un jour me donner un rôle qui serait pas mal.
C'est vrai que l'inverse est un peu plus dur. Comment vous appelez là-bas ? Youssef, Joe ?
Joe.
Joe, oui, Joe parce que Youssef, c'est Joseph, Joe, voilà.
Oui.
On a compris.
Mais ça, c'est après, quand ils ont commencé à me connaître, tout le monde, quand j'ai commencé à jouer. Et je jouais pas mal.
Ah,
c'est oui, je jouais bien. Mais je savais que, par exemple, même dans la vie, quand j'ai joué Gare Centrale, C'était fini, l'acteur. J'avais réellement fait un bon rôle. J'avais dédonné un bon rôle, comme je l'avais pensé. Et j'ai dit, basta, ça suffit. Attends, je vais te dire comment. Il y avait un acteur français absolument extraordinaire. Sa femme était très vieille. Dernièrement, comment il s'appelait ? Barreau. Je l'avais vu descendre 2-3 marches et retourner en arrière, de dos,
ouais,
les 2-3 marches, ouais, et c'était d'une élégance à mourir. Et moi, j'ai pu refaire ça dans une des pièces qu'ils m'ont données.
Là-bas, aux États-Unis.
Là-bas, aux États-Unis. Parce que tu devais avoir au moins joué 2 fois, même en metteur en scène. En tant que metteur en scène, tu devais avoir joué 2 fois.
Vous vous souvenez de votre première incursion dans les studios d'Hollywood ? Parce que vous racontez ça très bien, en fait, dans votre film. On ne sait pas quelle est la part d'autobiographie et la part de fiction. Quand vous rentrez dans cette usine de rêve, c'est-à-dire vous découvrez un peu l'envers du décor du rêve américain.
Premièrement, on était à 100 mètres disons, 1 kilomètre de Hollywood. Et c'était absolument interdit. Et il a fallu que le professeur, là, qui était très gentil et qui finalement m'aimait bien, a été invité par un grand acteur. Il nous a pris avec lui, moi et ma petite amie qui était russe. la Ginger, et je suis rentré. Et ils faisaient un plan, ils ont terminé le plan. Et moi, j'étais très curieux de regarder la caméra. Et à certains moments, les assistants ont ouvert la caméra. Alors je me suis approché et je voulais savoir si la photo entrait directement sur le film ou bien par prisme. Alors le type me dit, c'est un secret professionnel. Je dis, ah oui, on va te foutre, mais ça je ne l'ai pas dit. Et puis lui va chez un des gardes et il lui parle. Le garde prend un manteau que j'avais, lamentable, mais il l'a pris. Il vient vers moi, il me dit, c'est votre manteau? Je dis oui. Il me dit, bien, portez-le, allez vous faire foutre.
Oh bah dis donc, pourtant dans les années 40, les Arabes n'étaient pas si mal vus aux États-Unis.
Mais ils ne savaient rien de moi, ils ne savaient absolument rien de moi. Comment j'ose demander un secret professionnel? Alors on ne parle pas trop des studios de Hollywood, je suis resté exactement 3 minutes. Dans les grands studios de Hollywood. 3 minutes, exactement. Il tournait, Rita Hayworth tournait Les Amours de Carmen. Et notre copain, l'acteur, qui s'appelait Victor Jory, celui qui nous a invités, jouait avec elle.
Youssef Chahine, parallèlement à votre formation de cinéaste, vous êtes jeune, vous êtes à Pasadena, vous êtes aux États-Unis, en Californie, parallèlement à cette école. Il y a aussi l'école de la vie, puisque vous dites, vous le montrez bien dans votre film, vous avez eu votre première relation amoureuse, sexuelle, là-bas, aux États-Unis.
Non, amoureuse était un côté, sexuelle était un autre côté. Sexuelle, c'était on appelle ça nymphomaniaque, je crois. Elle avait 30 élèves, et elle passait par les 30 élèves chaque soir. Et moi, j'étais un d'entre eux. Et elle me regardait comme j'avais une chambre derrière un garage en planche racolée comme ça, il y avait des trous, elle regardait par le trou et quand je l'ai attrapé qu'elle me regardait, je fermais les trous avec mes chaussettes et finalement elle s'est arrangée pour couper l'eau de la douche. Et moi, je retournais d'un concours de danse à Hollywood, dans un grand endroit qui s'appelait le Palladium. Comme ici, je ne sais pas quoi ça s'appelle. Quelque chose de très grand, ça veut dire qu'il y avait au moins 1000 couples. Et j'avais envie de prendre la douche. J'avais dansé, j'avais sauté, j'avais... Et puis elle me dit, « Ah, l'eau ne marche pas chez toi, mais si tu veux, tu peux prendre la douche chez moi. » Mais je lui dis, ton mari, il n'est pas là, il est chez sa maman, au Vermont. Alors j'ai été prendre la douche chez elle, et c'est là qu'elle m'a dépucelé.
Aux États-Unis.
Alors aux États-Unis, oui, c'était pas au Diablo Noir, c'était en Californie, à Pasadena, dans ma minable petite chambre en bois.
Quand vous êtes aux États-Unis, est-ce que vous pensez souvent à l'Égypte?
Oui, ça a été inévitable. Il n'y avait pas un moment où j'avais désiré travailler à Hollywood. Franchement pas. Je m'en foutais comme l'an 2000. Je disais, je retourne chez moi. Un, je pourrais peut-être aider mes parents. Deux, je vais parler de gens que je connais. Je ne veux pas parler des histoires comme ça, des fictions. Je sais pas. C'est pour ça que je n'ai jamais aimé les romans. Je lis rarement des romans. Je lis des romans sociologiques, je lis Touraine, je lis l'autre hédoniste qui est absolument merveilleux. Merde, j'ai oublié son nom. Mais c'est ça le genre de bouquin que je lis, je ne lis pas des romans, je m'en fous de la fiction. À part si quelqu'un me dit, tu sais, Condorad a écrit un bouquin absolument magnifique, et si c'est quelqu'un comme Edward Said... Et il faut bien le croire, hein, parce que c'était quelqu'un d'absolument merveilleux, merveilleux. Et je l'ai mis dans mon film. Un des films, comme ça, on débute là. À New York, à la grande université de New York. Et c'est là qu'il a enseigné.
Youssef Chahine, donc vous allez, après votre formation aux États-Unis, vous allez retourner en Égypte pour tourner votre premier film, Papa Amin, en 1950. Alors, d'après tous les revues de cinéma, les encyclopédies du cinéma, ils disent que c'est un opérateur, un pionnier du cinéma égyptien, Alvis Orfanelli, je prononce bien son nom, qui vous a aidé.
Alvis Orfanelli. Il a été magnifique pour moi parce que quand je suis arrivé et je travaillais dans ce bureau où je n'avais rien à faire avec mon métier à part que être dans le département de publicité de la Fox, ça veut dire faire de la publicité pour les films
américains.
Oui, et c'est tout. Il est venu, il me dit, c'est vrai que tu as fait tes études en Amérique. Je dis oui. Je dis, pourquoi tu poses la question? Il me dit, parce qu'il y a un producteur qui est totalement brisé parce que son metteur en scène l'a laissé. Et moi, je t'ai proposé à toi. Et je lui dis, tu ne me connais pas. Mais il me dit, tu as fait tes études aux États-Unis? Je dis oui. Je dis bien, je vais lui dire ça et il va s'emballer. Il lui a dit ça et il s'est emballé. Et il était très courageux parce que juste quelques jours avant, j'avais été chez le producteur le plus connu, qui s'appelait Warda, je crois, je ne sais pas. Lui qui me regarde, il me dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Je veux faire de la mise en scène. Je dis, toi, ça ne marche pas du tout comme ça. Tu maigres comme un clou, qui va te respecter? Va grossir un tout petit peu et puis reviens à moi. Entre-temps, il y a eu l'incident de Alvisi qui a parlé à l'autre producteur. L'autre producteur m'a reçu les bras ouverts. C'était excessivement courageux parce que j'étais réellement maigre avec un nez comme ça, avec des oreilles comme des boiles de canot, là, appelle ce que tu veux. J'étais pas très beau. Mais je lui fais impression, je ne sais pas. Sandy Dubaratin.
Est-ce que vous l'aimez, votre premier film, Papa Amin?
Je le trouve intéressant. J'avais à peine fait... j'avais vu tourner un film par un Italien, Gianni Vannuccio. Mm-hmm. J'étais visiteur. Ils m'ont permis de visiter le plateau pendant presque tout le tournage. Après 3 jours, je connaissais... Qu'est-ce que ça veut dire un objectif? Quand est-ce qu'un emploi est grand, quand est-ce qu'un... Après 3 jours.
Ça va très vite dans votre carrière, Youssef Chahine.
Très vite.
Très vite.
La technicité.
Et puis même le reste, puisque l'année d'après, en 1951, pour Le Fils du Nil, vous voilà à Cannes.
Ah, pour Le Fils du Nil.
Mm-hmm.
Ah oui, enfin.
Et c'est vrai.
J'avais vu des films américains.
Ouais.
Je savais comment... faire un film à 4 sous parce que et pourtant j'avais l'ambition de faire les inondations du Nil parce qu'il n'y avait pas l'eau au barrage encore et tout ça et j'ai été dans les endroits qui étaient réellement inondés et c'est le seul témoin de ce qu'était l'Égypte quand il n'y avait pas l'eau au barrage. Alors je vais à Venise, je me dis avec le film sur la tête et les mains totalement déchirées parce que c'était 11 bobines, petites, mais c'était 11 bobines, c'est très lourd. Et lié avec un genre de corde ou de ficelle ou je ne sais pas quoi.
Tout seul avec votre film?
Oui. Et qui me blessait les mains, j'avais une croix pour le soutenir. Et puis j'ai été jusqu'à Rome, et puis de Rome on m'a dit « prends un train ». Je prends le train, je dis c'est Venise, il me dit oui c'est Venise, je descends, je dis ben je veux arriver au Lido. Alors on m'a dit prends l'autobus. Alors je dis oui l'autobus, et d'un coup je trouve que c'est pas un autobus, que c'est...
Un vaporetto.
Un vaporetto. je dis merde, ben, ça arrive au Lido ce bassin, il me dit oui. Je l'ai pris, j'arrive à Venise. De nouveau, je devais faire une longue marche avec mes 11 bobines. Et j'arrive chez le type, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Je viens pour être dans le concours. Il me dit, mais nous sommes en plein concours. Tu as écrit une, comment on dit ça, Le formulaire, pas formulaire, je disais, pourquoi faire le formulaire? Je ne sais pas, ce n'est pas un festival, je viens. Hmm? Il a eu tellement pitié de moi qu'ils ont cherché, ils sont rentrés dedans, bon, le directeur, je ne sais pas quoi, il se dit, bien, écoute, ce n'est pas très fort de notre part, mais pour faire de notre mieux, parce que tu es jeune, on va te donner une séance le matin. Il n'y avait pas le matin.
À
l'époque, il n'y avait pas le matin. Et je dis, bon, ça va. Mm-hmm. Et le soir, par hasard, il y avait Orson Welles assis. Et comme d'habitude, de nouveau, le même incident qu'à Hollywood. Alors je lui dis, quand vous jouez, vous êtes total. Hein, et le texte, vous le dites et vous le connaissez parfaitement. Alors je lui dis, non, qui te dit parfaitement? Je ne sais pas, c'est un acteur tellement sensationnel. Il me dit, non, moi je le dis, si ça sort autre chose, ça sort autre chose. Je dis, eh bien, l'autre... Vous enquiquinez l'acteur qui est en face parce qu'il va se perdre. Alors il prend une bouteille, il voulait me taper sur la tête. Il était tout. Hmm? Alors je dis, bien, je lui avais dit, viens voir mon film demain à 10h. Tout le monde s'étonnait que je disais à 10h parce qu'il n'y avait pas de projection à 10h. Parce que tout le monde était à la plage. Et en bikini, et les gens étaient là, tout affolant. Je vais dans un café en face et je regarde si quelqu'un va rentrer dans le cinéma. Il y a eu 4 chats qui sont rentrés et suivi de 4 journalistes, je crois, et j'étais très heureux. Puis je rentre dans la salle qui contient 2000. Il y avait 6 personnes, les 4 journalistes et 2 Égyptiens de... je ne sais pas quoi. J'étais réellement désespéré. Parce que je me suis dit, merde, comme début, ce n'est pas formidable. Et je suis sorti et j'ai parlé au bon Dieu. Je dis, tu sais, c'est pas chic, hein. Tu me donnes l'habilité de venir jusqu'ici avec mes 11 boîtes et puis il n'y a pas de public. D'un coup, il y a un orage extraordinaire, et tout ce qui était à la plage, même en bikini, ils sont rentrés dans la salle, et la salle était presque pleine.
Et donc, est-ce que ça a compté beaucoup pour vous, ce film, Youssef Chahine?
Oui, certainement, parce que c'était de nouveau, mes fameux dialogues avec Dieu étaient... Je suis sorti, je dis, écoute, je ne sais pas quoi te dire, mais merci.
Vous enchaînez tout de suite après, vous réalisez Le Grand Bouffon avec le grand Youssef Ouahbi, puis la star absolue Fatane Hamama en 52, puis La Dame du Train.
Elle n'était pas du tout star.
À cette époque, elle n'était pas encore star.
Non, elle n'était pas star, c'est presque moi qui l'ai découvert et je lui ai appris comment jouer. Et qu'elle dit ce qu'elle a envie.
Et comment vous avez découvert Fatane Hamama? À ceux qui nous écoutent, Fatane Hamama, c'est la plus grande star du cinéma arabe.
Maintenant, elle avait fait un minable petit film. Un petit rôle quand elle était petite fille avec Abdel Wahab. Mm-hmm. Et puis un film, je crois, avec Hassan Imam. Mm. Rien, un film banal. Et moi, je trouvais qu'elle était intéressante. Et quand je l'ai connue un tout petit peu, je suis presque tombé amoureux d'elle. Mm-hmm. Mm. Et je disais, non, cette fille est intelligente, elle va me donner ce que je veux. Et on a commencé comme ça.
Et puis après, donc, La Dame du Train, Femme sans homme, et puis en 1954, vous allez tourner Ciel d'enfer, toujours avec Fatane Hamama, et pour la première fois à l'écran, un jeune alexandrin beau comme un dieu égyptien, un certain Michel Chelhoub, c'est-à-dire Omar Sharif, que vous découvrez vous aussi.
Et oui, on est resté à moi, je cherchais un nom, je disais, non, je veux lui donner un titre de noblesse.
Ah, c'est vous qui avez trouvé Omar Sharif pour Omar Sharif?
Le nom, oui. Et je voulais un nom avec elle. Alors, on a dit Omar, ah oui, Omar, c'est bien. Il y avait un grand général américain qui s'appelle Omar. Alors, je dis, bon, ça va, c'est un nom qui est connu. Et puis, le shérif, c'était Shadia qui a trouvé.
Shadia, la comédienne?
Une grande actrice.
Ouais. Omar Sharif, Fatane Hamama, c'est... Pour donner un petit aperçu, c'est un peu Liz Taylor et Richard Burton, on peut pas dire. C'est-à-dire que ce sont des grands comédiens. C'est le couple mythique du cinéma arabe. C'est bien de savoir que c'est vous-même qui les avez découverts. Mais alors, pour Omar Sharif, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez rencontré? C'était quelqu'un qui voulait faire du cinéma?
Il a prétendu vouloir. Il a prétendu qu'il allait aller. Qu'il comptait aller en Angleterre. La guerre était terminée. Royal Academy. C'était pas vrai, c'était du baratinage, mais ça va. Au moins, ça veut dire qu'il a envie. Et c'est tout ce que je voulais. Puis, il y a eu un bon moment où je ne l'ai plus revu. Je l'ai revu dans un cinéma. Cinéma, oui, Rivoli.
C'est au centre du Caire.
Il s'est retourné et j'ai dit, merde, ce qu'il est beau. Hein, il était vraiment beau, très très beau. Alors j'ai repris le dialogue avec lui, il m'a donné une image que j'ai encore. Mm-hmm. Et si tu veux savoir où, elle est dans le gros lexique de Shakespeare, en Hamlet.
Youssef Chahine, donc, pour À Voix Nue, on se retrouve demain, Youssef Chahine, et cette fois-ci, on va parler des années du nationalisme arabe, puisque le titre de notre entretien de demain, ça sera « Nasser, la révolution ». L'amour et le cinéma. Ça vous va pour demain?
Répète.
Nasser, la révolution, l'amour et le cinéma.
Oui.
C'était New York, Le Caire. La deuxième partie de La Voix Nue de Youssef Chahine, diffusée la première fois le 20 juillet 2004 sur France Culture. À suivre.